Marie Treves, vous qui avez passé tant de temps dans les pages et les dictionnaires, il vous arrive encore de les feuilleter?
Mais très souvent. Très souvent. Pour effectivement vérifier quelque chose. Mais aussi, je crois, par curiosité, tout simplement. On apprend toujours des choses.
Oui, j'ai découvert en vous
dans
lisant.
Dans les pages des dictionnaires.
J'ai découvert que le mot cauchemar était un mot qui venait du néerlandais et qui voulait
c'est
dire.
C'est un hybride. Moitié quelque chose pas loin de l'Île-de-France.
Oui.
Et derrière, il y a Maroc, qui est un mot néerlandais qu'on retrouve dans Nightmare en anglais.
Et qui signifie...
Et mot à mot, alors le premier mot, c'est un verbe, il est à la deuxième personne du singulier, donc tu. Et il signifie fouler, presser. Donc tu fais un cauchemar, tu as marché, tu as dérangé des fantômes.
Marcher sur des fantômes, voilà, c'est joli pour parler d'un cauchemar.
Voilà.
Je pense que d'une façon générale, nous concevons ce qui est étranger comme anglo-saxon. Et on perd le sens du multiculturel, du multilinguisme, etc. Mmh. On est enfermé là-dedans. Alors, moi, je pense qu'il y a énormément de langues, il y a énormément de cultures, et nous nous enfermons. Alors, il y a eu un temps où, c'est vrai, la culture française a dominé, c'était le XVIIIe siècle, et on était très contents. Bon, c'est passé, la culture anglaise l'emporte, mais je crois que nous avons à défendre les autres cultures.
300 millions de francophones, quand même, dans le monde.
Oui.
C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup et ils sont remarquables. Et ils sont très attachés
pas
à leur
tous,
française.
Pas tous, j'en connais des pas sympas.
Non, mais je dois tout de même dire que quand on va en Afrique, quand on va au Canada, on est frappé par le respect qu'ils ont de la langue française. Et ça, c'est remarquable.
Alors, je m'adresse à la linguiste que vous êtes, Marie Treves. Quand vous écrivez qu'un Français est par nature un polyglotte, vous voulez dire quoi?
Parce que le français, peut-être par une attitude fondamentalement française qui serait la légèreté, a absorbé, a accepté, a emprunté, a attrapé beaucoup de mots étrangers. Des mots dont on ne soupçonne plus aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de cauchemar. Bon, qui soupçonne que c'est un mot néerlandais? Il y a énormément de mots étrangers dans la langue française.
Plus qu'une autre langue, vous croyez?
Ça dépend aussi. Je crois que plus que beaucoup d'autres langues. Par exemple, dans d'autres langues d'Europe, en finnois, qui a été... obligé de parler russe, la Finlande a été obligée de parler russe, quand la langue finnoise a été restituée, on s'est empressé pour nommer les objets de la modernité, parce que c'est souvent pour ça qu'on emprunte des mots. Eh bien, eux, ils ont, avec leurs propres racines, inventé des mots nouveaux. Ouais. C'est une attitude qu'on n'a pas du tout en français. Par exemple, au moment de l'affaire du voile en France, en Finlande, le mot laïcité n'est pas compréhensible.
Bon,
il y a deux religions d'État. Alors, ils ont reformé un mot nouveau. Au lieu d'emprunter le mot français, laïcité, ils ont dit un mot finlandais, que je ne vous prononcerai pas aujourd'hui, mais qui se traduit par le fait d'être terrestre. C'est des cultures qui ont des attitudes vis-à-vis de la création lexicale différentes. Et le français a beaucoup emprunté.
Alors ce que vous dites, c'est intéressant, parce que vous dites, à travers cette affaire de la laïcité, qu'un mot correspond à une idée, et qu'on pense peut-être mieux quand on a plus de mots, quand on a les mots pour penser. Alors, bon, tout le monde peut convenir du fait qu'une langue est fragile et même mortelle. Il y en a 6000 à peu près actuellement dans le monde. C'est le chiffre que j'ai. Une qui disparaît tous les 15 jours. C'est énorme.
C'est ce que dit Claude Agege.
Le français n'échappe pas à ce danger à long terme. La première question, avant de savoir s'il va disparaître, c'est qui pourrait l'abîmer. Quand on parle des langues étrangères à l'université, en fait, c'est de l'anglais qu'on parle. Marie Treves, vous rappelez dans vos écrits que dès le 19e siècle du français, la création des alliances françaises était là pour asseoir un prestige d'une langue. Elle était déjà en train de décliner. Alors, vous dites à peu près la même chose, Hélène Karadankos, quand vous parlez du roi Gustave III de Suède, qui se désolait au 18e siècle de l'anglicisation du français.
Oui, mais en même temps, on peut dire qu'il y avait un appel à emprunter des mots à l'anglais. C'est très intéressant, il y a toujours eu les deux tendances. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que le français n'est pas la seule langue à avoir adopté des mots étrangers.
Non.
La langue anglaise a absorbé énormément de mots français, la langue russe aussi.
Oui.
Et si vous me permettez, madame, je voudrais vous dire quelque chose. Je pense que ce que vous avez dit à propos du finnois, qui est passionnant, le finnois, c'est une attitude défensive en face d'un peuple qui l'opprimait.
Oui.
Les peuples qui n'ont pas à se défendre, ils empruntent beaucoup plus aisément.
Certainement.
Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont la liberté.
Mmh.
Et ça explique que le français est beaucoup emprunté. Vous lisez la littérature russe, vous avez en français dans le texte toutes les trois phrases. Chez Tolstoï, c'est absolument saisissant.
Ou chez Oscar Wilde.
Absolument. Mais dans beaucoup de langues, vous avez ça. Vous avez emprunté, madame, les mots voyageurs. C'est un mot que moi j'aime beaucoup et que j'avais déjà, qui résonne à mes oreilles. Et je crois que le drame du... Enfin, aujourd'hui, le problème du français, ça n'est pas tellement les emprunts à l'anglais, ça c'est fâcheux. C'est quelque chose de plus embêtant. Le français, je voudrais le rappeler, c'est une langue qui est une langue de mots, mais c'est avant tout une langue de syntaxe. Oui. Or, nous sommes en train d'emprunter la construction anglaise. Et c'est ça qui menace le français. Alors, ça me paraît beaucoup plus que les mots.
Oui, bien alors, sûr.
Michel... Madame, je me tourne vers la linguiste.
Oui, bien sûr.
Ouais. Vous, Marie Treps, quand vous découvrez des mots anglais, il y en a que vous prenez pour votre compte, que vous aimez bien. Vous dites top secret ou private joke ont des charmes insoupçonnés. Faire un break est moins sérieux que de faire une pause. Alors adoptons ces expressions.
Bah, temporairement, on peut s'amuser. Enfin, on peut aussi, il y a toujours une dimension ludique dans la langue. On ne peut pas interdire à chacun de s'amuser avec la langue. Là, c'est pas là. On parle de deux choses différentes. En privé, on peut tous utiliser des mots anglais. Pourquoi pas? On emprunte, c'est comme on
alors,
disait...
Alors, c'était pour le privé?
Hélène Carrère-Dancausse tout à l'heure, le charme des langues aussi, c'est de s'échanger des vocabulaires, de ne pas s'enfermer dans une seule langue. Mais... il y a eu d'autres questions, deux questions qui viennent d'être évoquées là. C'est que l'implantation ou non du français et l'envahissement de l'anglais aujourd'hui, ça dépend, c'est lié à deux choses, à des décisions, alors qui sont de l'ordre qui appartiennent à l'État, la loi tout bon, comme disait Hélène Carrère-Dancausse. Et puis il y a aussi il y a une grande quantité de gens qui ont chacun leur rôle à jouer, c'est vous, moi, tout le monde, c'est-à-dire les usagers de la langue. Qui va décider un jour d'écrire sales sur sa vitrine, je ne sais pas, dans un une petite ville de province, c'est quelqu'un qui un jour a décidé que voilà, ce ne sont pas des choses qui peuvent se réglementer. Et puis à chacun aussi d'exercer sa propre censure ou son propre plaisir vis-à-vis de la langue.
Je suis très pragmatique. Je considère qu'il est très malsain de ne parler qu'une langue. Ou d'avoir une langue étrangère. Il faut en parler plusieurs. Enfin, c'est ça. On a vécu en Europe longtemps. Les gens, je dirais les intellectuels, connaissaient plusieurs langues et échangeaient en plusieurs langues. Quand ils n'échangeaient pas en latin. Le latin, c'était plutôt avant qu'ils échangent en allemand, en italien, en espagnol et ainsi de suite. Et je pense que c'est très utile. Et je pense qu'en effet, on recouvre à d'autres langues.
Voltaire, vous le citez quand vous dites « C'est la canaille qui fait le fond des dictionnaires ».
Oui. Ce qu'il dit, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que la langue, elle ne se fait pas d'en haut, elle se fait dans... Il y a une langue qui est exprimée par les élites, mais elle n'est riche, elle n'est elle-même, que si elle vient d'en bas en même temps. Et s'il n'y a pas cette coopération du haut et du bas, à ce moment-là, la langue n'existe plus.
Donc ce n'est pas quelque chose des élites.
Oui, et maintenant, et c'est un peu ça le drame, maintenant la langue qu'on entend, je dirais qu'elle n'est plus, elle ne vient plus du bas, où le bas n'y coopère plus. C'est une langue qui... Je l'ai appelé la novlangue, enfin c'est pas moi, c'est Orwell qui a parlé de la novlangue et je crois qu'il a tout à fait raison. D'ailleurs, je crois qu'on ne lit pas assez Orwell. Enfin, moi, je suis personnellement convaincue et j'offre Orwell à tous les gens que je connais.
Mais alors, c'est quoi la novlangue?
Eh bien, la novlangue, c'est une langue aseptisée, c'est une langue fabriquée. C'est le début du totalitarisme. C'est une langue fabriquée pour, je dirais, vider l'esprit humain de tout esprit critique en lui imposant des mots qui n'ont pas de sens, qui ne traduisent pas une réalité.
Alors, ces mots, vous les citez, vous dites, il y a par exemple « cerise sur le gâteau
», tout ça, oui,
qui existe quand même comme expression. Oui, partie émergée de l'iceberg, jouer profil bas, botter en touche, soigner son mental, caracoler en tête dans les sondages.
C'est-à-dire ce qu'on entend dans les informations toutes les 3 minutes, et ça ne se rapporte à rien du tout, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Un mot désigne des choses réelles. Et je trouve que c'est complètement vidé de sens, alors qu'il y a des mots pour tout désigner. Et ça, au fond, on emploie ça comme ça, c'est omnibus. Mais ce que je veux dire par là, je pense qu'il y a quelque chose de plus grave. Il y a un rapport entre les mots qu'on emploie et ce qu'on a dans le cerveau, les représentations qu'on a dans le cerveau et la liberté de penser. Et c'est cette liberté de penser qui est en train de disparaître parce qu'on emploie des expressions qui ne veulent rien dire. Et ça, je pense que c'est un des drames de l'époque que nous vivons.
Marie Treps...
La facilité de la paresse aussi, oui.
La paresse, vous dites.
Oui, bien sûr. Une langue, c'est deux choses. C'est un outil de communication et c'est un outil essentiel de pensée. Et dans cette novlangue, ce que Madame Dancausse s'appelle novlangue, ce sont des stéréotypes qui servent à communiquer, à mal communiquer, mais à communiquer parce que de toute façon, on comprend tout de suite le sens. Souvent, il y a des images derrière, ça va vite, on comprend. Et puis, voilà, on s'arrête à cette communication basique très fruste. Mais c'est aussi un outil de pensée, la langue. Et si elle s'appauvrit, si la grammaire disparaît, on en revient là, la langue n'est plus cet outil de pensée essentiel. Si on n'a qu'un lexique, On ne peut pas penser avec un lexique. On peut échanger des mots comme on le fait en pays étranger avec, avec quelqu'un et on va parloter ou mal parler anglais l'un et l'autre. Ça passera par le lexique. Mais on ne pourra pas vraiment faire de discours profond ni penser. Et c'est pour ça que la grammaire, elle est essentielle aussi. Je reviens là-dessus. Si vous voulez, les mots sont des oiseaux. On peut emprunter à d'autres langues. Les mots se déplacent. Mais il y a quelque chose qui est une cage, qui est la grammaire.
Passons.
Qui fait que les langues ne pourront jamais s'accommoder l'une de l'autre. Il n'y aura pas d'osmose d'une langue à l'autre. Et c'est ça qui est difficile à apprendre. C'est quelque chose de rigide, la grammaire. L'image de la cage est vraie.
Le problème, c'est qu'on enseigne mal l'anglais en France.
Et le français.
Et le français. On enseigne mal le français, l'anglais. Et puis, il faudra enseigner deux ou trois langues. Il faut au moins d'abord avoir deux langues étrangères et pas une.
Marie Treffs, il nous resterait peu de temps. Est-ce qu'on vous quitte sereine ou dans quel état êtes-vous en
sereine,
tant que linguiste?
Deux anecdotes. Un jour, j'ai aidé la fille d'une amie qui était en cinquième, qui se sortait très mal de son devoir de français, qui était... Je ne comprenais pas, j'ai demandé le manuel. C'était fait, on va dire, de la linguistique, auquel j'avais beaucoup de mal à comprendre. J'ai eu 5 sur 20.
Oui.
Tellement
alors
c'est.
Que vous êtes
et j'ai dit ça un jour en conférence devant des gens qui sont aujourd'hui professeurs des écoles et qui m'ont dit ah, vous le dites enfin, parce que ce n'est pas possible. Alors, sous prétexte de faire de la linguistique de faire moderne, on enseigne maintenant le français n'importe comment. Et la deuxième, c'est des gens que j'ai rencontrés peu, qui ont des enfants qui ont vécu plusieurs années en étranger, notamment en Chine, qui ont étudié dans des lycées français, ces enfants. Quand ils arrivent en France, ils sont tout à fait décalés, parce qu'on leur dit « mais vous parlez un français désuet ». En fait, ils parlent un très joli français, qui n'est pas celui que parlent les enfants qui apprennent le français.
Vos derniers ouvrages, Marie Treffs, notamment Enchantée de faire votre plein d'essence et Haute joyeuse calembourde, et puis Hélène Karadankos, Les Romanov, Une dynastie sous le règne du sang, sont indiqués sur la page de l'émission Encore heureux. Merci à tous d'avoir été avec nous et à bientôt.